ça sera un énorme défi. Donc je pense qu'il faut vraiment voir la hauteur de la tâche et puis savoir qu'il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudra régler ces éléments de manière pragmatique, de manière à ce que la population y trouve son compte, finalement, à ce que les deux parties soient gagnant-gagnant. Et je pense que c'est un énorme défi, mais je pense que là, il faut justement prendre un peu de la distance, être pragmatique et que chacun puisse y trouver son compte.
En tant qu'autonomiste, comment est-ce que vous vous positionnerez pour défendre les intérêts du Jura bernois et du canton de Berne?
Bon, en tant qu'élu au conseil exécutif, bien sûr, je représenterai le Jura bernois d'abord, mais surtout le canton de Berne. Donc là, finalement, il faudra prendre des actions qui sont bien pour le canton de Berne, bien sûr, mais tout en respectant nos voisins cantonaux, notamment le canton du Jura, et dans cette interaction-là, je pense que je suis assez bien placée, étant donné que j'ai pas de passé de friction avec, ou si on peut l'appeler ça comme ça, un peu de manière raccourcie. Donc j'ai des bonnes relations, disons, avec en tout cas le canton du Jura ou leurs habitants, et je pense que c'est important aussi, dans le sens où maintenant il faut aller de l'avant et il ne faut pas rester sur des frustrations ou des haines, mais il faut vraiment être positif et essayer de faire en sorte que ce soit le mieux pour la population de Moutier et des deux cantons.
Vous parlez de ne pas rester sur de la frustration. Un mot sur le climat actuel à Moutier. Le conseil de ville a été très tendu lundi. Tout est parti d'une motion qui souhaitait justement apaiser les tensions. C'est le contraire qui s'est produit. Comment est-ce que vous analysez cette situation? C'est encore trop frais, ce vote?
Bon, c'est frais, c'est vrai. Mais je pense que, oui, que c'est dommage ce qu'on observe. Et je pense que c'est maintenant vraiment aux élus aussi politiques de montrer l'exemple et de montrer que voilà, il faut accepter le résultat du scrutin. Nous, on le fait pour ce qui est arrivé le 24 novembre 2013. Il faut aussi que l'autre partie accepte ce qui arrive à Moutier et ce sont eux, finalement, qui doivent montrer l'exemple et aller de l'avant. Et ça, je pense que c'est très important.
Donc, finalement, quelle sera la clé d'un bon déroulement dans ces négociations?
Donc, au niveau cantonal.
Au niveau cantonal, mais aussi au niveau... Pour aider les gens de Moutier, pour aider à faire passer cette étape.
Alors je pense que c'est vraiment justement de prendre des décisions qui sont pragmatiques, qui sont basées sur des analyses ou des données vraiment concrètes, et de pouvoir être transparent et de pouvoir montrer à la population des deux cantons pour quelles raisons sont prises quelles décisions.
De continuer de travailler ensemble, on l'a vu hier, il y a une application et un site internet du Forum Culture intitulé Culturoscope qui a été présenté. C'est aussi une manière de lancer de bons signaux.
Je pense que ça, c'est des signaux extrêmement importants, surtout dans le climat actuel. Je pense que l'interjurassien n'est pas mort. Je pense qu'il y a vraiment une raison et un bénéfice pour les deux parties de continuer à certaines institutions interjurassiennes, mais notamment dans la culture. On l'a vu avec ce Culturoscope. Pour moi, c'est un message merveilleux et c'est un message hyper positif, et il faut vraiment continuer dans cette direction-là.
Moutier devrait donc quitter le canton de Berne, puisque Louis est sorti des urnes le 18 juin dernier, sous réserve des décisions de la préfecture du Jura bernois. Conséquence, des institutions cantonales devront trouver domicile dans d'autres localités. Certaines d'entre elles ont déjà fait savoir qu'elles étaient intéressées. Est-ce qu'il faut, selon vous, qu'une des grandes communes de la région, on pense notamment à Saint-Imier, Tramelan ou encore Valbirse, se profile pour remplacer en quelque sorte Moutier?
Bon, remplacer Moutier, c'est un grand mot. Le Jura bernois n'a jamais été... polarisé autour de Moutier. J'ai simplement, géographiquement, on voit qu'il n'y a pas de centre. Non, mais disons, je pense qu'il y avait déjà plusieurs centres, et je pense que ça continue d'être le cas. Alors oui, il y en a un en moins maintenant, mais je ne pense pas que ça va déséquilibrer plus que ça la région.
On parle beaucoup de cette relocalisation des institutions. Selon vous, c'est beaucoup de bruit pour peu de choses?
Mais non, il y a un enjeu, clairement. Et il faudra veiller à ce que... Oui, est-ce que certaines communes vont pouvoir y gagner quelque chose, mais c'est important que les communes ne s'y tirent pas dans les pattes et que chacun puisse y trouver son compte, si, en tout cas du mieux possible. Mais c'est important de pouvoir aller de l'avant maintenant et utiliser ce changement positivement pour certaines communes, et puis pour essayer de, oui, de voir ce qu'on peut faire. Il faut que les places de travail restent dans le Jura bernois. Il faudra veiller à certaines choses, mais il y a du travail, mais il faut veiller à ce que ça se fasse dans les meilleures conditions.
Est-ce que le Jura bernois, il doit continuer de penser à lui, ou alors est-ce qu'il faut qu'il s'ouvre encore plus? Je pense notamment aux francophones de Bienne ou encore aux 5000 habitants francophones de la ville de Berne.
Bien sûr, il faut, le Jura bernois doit s'ouvrir, mais le Jura bernois est déjà ouvert. Je pense qu'il ne s'est jamais refermé sur lui-même, et c'est une belle chose aussi. Je pense que les liens maintenant entre francophones du canton sont très importants et doivent aussi se renforcer. Mais d'ailleurs, les signaux des dernières années vont dans ce sens. On voit le rapprochement, en tout cas les bonnes discussions, la bonne entente entre le CJB et le CAF notamment. Je pense que ce sont tous des signaux qui vont dans la bonne direction, il faut continuer ainsi. Mais il ne faut pas oublier que le Jura bernois a quand même une particularité, c'est qu'en termes de territorialité, c'est une région purement francophone. Et il faut faire attention à ne pas non plus oublier cette spécificité-là, parce que finalement, là, on a une région où on peut vraiment dire c'est francophone et il y a ces compétences-là. Et si le Jura bernois garde finalement ses spécificités ou ses compétences qu'il a, il permettra de renforcer tous les autres francophones aussi. Et moi, c'est vraiment comme ça que je vois le futur pour les francophones dans le canton de Berne.
Cette particularité qu'a le Jura bernois, elle a notamment son propre conseil, le conseil du Jura bernois. Hein, vous y siégez, vous avez été sa présidente. Il fait parfois grincer des dents dans d'autres régions du canton qui aimeraient bien avoir la même chose. Est-ce que vous seriez pour qu'on crée différents conseils dans d'autres régions?
Moi, je suis pour que la mise en avant des minorités ou des particularités régionales, je pense que c'est très important que celles-ci soient mises en avant et soient respectées et soient finalement montrées de manière très positive afin d'échanger et puis de gagner en richesse pour tout le canton. Ensuite, à savoir de quelle manière exactement faire ça, il faut savoir qu'il y a quand même un coût qui est lié à cette institution comme le Conseil du Jura bernois. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faudrait avoir aux autres régions, ou est-ce qu'il y a d'autres manières de mettre en avant ces spécificités régionales? À discuter, mais en tout cas, il faut rester ouvert, je pense.
Autre sujet épineux dans les dossiers bernois, les finances. Le canton de Berne a réalisé d'importantes coupes budgétaires pour éviter d'être trop déficitaire dans les années à venir.
Comment est-ce qu'il faut assurer l'équilibre à long terme?
Tout d'abord, bien sûr, c'est très important d'avoir un budget équilibré pour un canton, mais je pense que là, l'environnement de coupes budgétaires qu'on a depuis quelques années, il est vraiment néfaste pour la population, et je pense qu'il apporte... Il n'apporte rien au long terme, dans le sens où on s'en prend en particulier aux plus pauvres. Et si on s'en prend aux plus pauvres, en fait, on ne fait que déplacer la charge ailleurs, parce que ce sont des gens qui ne vont pas pouvoir créer cet argent qu'ils n'ont pas. Et si on leur donne moins, ça va juste déplacer les charges à d'autres systèmes. Si on enlève aux gens qui reçoivent l'aide sociale, par exemple, peut-être... Alors qu'on leur donne déjà le minimum vital, il y aura peut-être des problèmes de santé. Alors c'est la santé qui va être surchargée, ou la psychiatrie, j'en sais rien. Mais je veux dire, ce sont tous des domaines où, si on touche là, où les gens, ils n'ont rien, où ils ont peu, ça ne réglera pas le problème. Donc je pense qu'il faut vraiment commencer à avoir d'autres manières de réagir face à ces problèmes budgétaires, d'essayer d'encourager... les rentrées aussi, de manière d'encourager l'économie, les start-up, faire garder les gens ici aussi qui développent des idées et qui développent des nouvelles choses. Et vraiment, une fois, prendre la question de l'autre côté, comment créer, comment faire en sorte qu'on ne doive pas toujours couper parce que ça pose problème. Et puis, à long terme, ça ne sert à rien.
Comment faire justement pour les garder, ces personnes, pour pas qu'elles partent, par exemple les entreprises ou les faire venir dans le canton?
Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, dans la promotion économique notamment. Mais je pense que là, il faut se permettre aussi d'être innovatif, de trouver des conditions cadres favorables où les entreprises ont avantage à rester à long terme dans la région, et encourager les PME qui utilisent la force de travail locale et qui en fait sont vraiment le poumon économique de la région. Et je pense qu'il faut se rendre compte de leur valeur et essayer de tout faire en sorte pour qu'ils restent sans forcément passer par une réduction des impôts.
Vous l'avez dit tout à l'heure, donc dans les domaines qui ne devraient pas être inquiétés par des mesures d'économie, il y a le social. Quels autres domaines?
Je pense que le social et la santé, c'est vraiment... Alors, Je dis pas qu'il y a un potentiel d'optimiser certaines structures, parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est de l'argent public dont on parle, donc c'est de l'argent que chaque personne dépense, donc il faut pas simplement le dépenser à tout va, et il faut faire très attention que chaque franc soit finalement bien investi. Mais je pense que là, si on s'en prend justement aux gens qui sont dans le besoin, on fait que retourner le problème autrement et ça ne sert à rien. Après, c'est sûr que c'est quelque chose de très compliqué. Et il faut voir. Mais pour moi, il faut avoir une vision à long terme. Alors pas seulement penser à 4-5 ans, mais dire, ben voilà, dans les 10 prochaines années, voilà les retombées qu'on attend de telle et telle chose. Et puis là, les différences de calcul amènent déjà une autre vision, peut-être.
Et au contraire, quels domaines doivent faire un effort, selon vous ?
C'est difficile à dire. Il faut vraiment voir tout ce qui est où c'est possible d'optimiser. Par exemple, je pense que notamment par exemple dans la santé, il y a quand même des moyens d'encourager, par exemple peut-être des autres professions. On pense à la médecine, il y a des infirmiers spécialisés qui peuvent prendre certaines charges de la médecine. Ça permet aussi d'économiser, de faire travailler, par exemple, les pharmaciens qui sont quand même super bien formés et où on peut imaginer peut-être étendre un peu, ou les infirmières scolaires, le projet qu'il y a à Moutier, qui est excellent en fait, mais qui sont aussi tous des choses où à long terme on permettra d'y voir, enfin d'y gagner quelque chose sans y perdre une qualité de prestation ou sans que ça soit sur le dos de quelqu'un. Et je pense que c'est vraiment dans ces idées-là, dans ces alternatives où il faut chercher maintenant.